qu'un Y.
C'est pour ça que quand tu me parles à moi, tu y vas plus lentement?
Je parle lentement pour être sûr que chaque mot soit bien compris. Oui. En italien, ça s'écrit avec un J. Le J, l'ancien J de l'ancien alphabet italien, ça donne le son Y. Donc, mon grand-père avait fait changer. Okay. Donc, on est des Italiens, mais ça faisait plusieurs générations que ma famille vivait en Égypte. Il y a une communauté italienne en Égypte. Tu connais Dalida?
Oui, ben oui.
Alors, Dalida, c'est une Italienne d'Égypte. C'est comme notre mascotte, nous, les Italiens d'Égypte. Donc, ma famille a immigré au Québec au début des années 60.
C'est ton grand-père?
Oui.
OK. Puis quel métier pratiquait ton grand-père?
Mon grand-père était un homme de chiffres. Il a travaillé la majorité de sa carrière au ministère des Finances.
OK.
Il a enseigné aussi quand il était en Égypte. Donc, c'est quelqu'un qui était très fier de servir l'État québécois. Mes grands-parents sont arrivés ici. Ils avaient été un peu traités toujours comme des étrangers en Égypte.
Ouais.
Tu ne deviens jamais un citoyen égyptien. Ils étaient restés très italiens.
Ah, ouais.
Et quand ils sont arrivés au Québec, ils ont vraiment eu envie d'être québécois. Ils sont même devenus nationalistes. Ils étaient très francophiles. La langue française est très importante. Alors, voilà l'histoire.
Ah, c'est une belle histoire. Mais est-ce que c'est eux autres qui ont choisi le Québec? Est-ce qu'ils s'étaient informés sur le climat, la météo?
Oui, parce que dans le fond, le premier qui avait immigré ici, c'était mon grand-oncle Benoît.
Ouais.
Et souvent, c'est comme ça, hein, les histoires d'immigration. C'est qu'il y en a un ou une qui commence. Puis là, ben, il fait venir tranquillement d'autres membres de la famille. Donc, c'était mon oncle Benoît qui était déjà ici, qui enseignait à l'Université Laval. Puis après, ben, les autres membres de la famille ont suivi. Mais j'ai de la famille un peu partout. J'ai de la famille en Europe, en Amérique du Sud, en Australie. Des Yacarini, il y en a un peu partout de disséminés. Mais on a une bonne communauté ici au Québec. Puis la langue française, c'était vraiment... En fait, mon grand-père parlait français déjà en Égypte. Il était allé à l'école française. Donc, le fait de savoir qu'il pouvait venir en Amérique du Nord, mais dans un endroit où ça parlait français, ça a vraiment fait la différence.
Ah, c'est très cool. Ben, qui a choisi le Québec? Il y a quelques années, j'avais rencontré un gros monsieur moustachu qui faisait de la radio depuis des années au Québec. Puis il me parlait un peu de l'arrivée de son grand-père. Lui, c'était un Turc et son vrai nom, c'était Isakian. Puis quand sont arrivés, c'est un Turc d'origine arménienne.
Oui.
Puis quand sont arrivés ici au Québec, ben, ils ont dû... Isakian, ça passait comme étant des noms juifs.
Mm.
Donc là, ils ont dû changer leur nom, puis ils ont switché ça en Arthur.
Il a choisi un nom à consonance francophone pour des raisons. Ben, probablement qu'il avait peur d'une certaine discrimination à l'époque.
Ben, probable, mais ce qu'il m'avait raconté, puis j'avais trouvé ça très drôle, c'est que c'est la grand-mère qui parlait un peu anglais qui est arrivée au port de New York. Et elle a dit, et on lui a laissé le choix d'aller soit en Californie ou à Montréal. Et elle a choisi Montréal sans vraiment savoir ça ressemblait à quoi le climat. Et rendu à Montréal, ben là, à l'époque, c'était assez difficile pour les Juifs. Donc, ils ont tout simplement décidé de s'en venir vers Québec. Puis, par la suite, ils ont réussi à faire leur vie. Puis, M. Arthur était avec son père et le frère de son père. Ils ont été dans l'univers médiatique pendant des années et des années. Mais c'est une belle histoire d'immigration de gens qui se sont... qui sont arrivés ici en Amérique puis se sont impliqués, puis de savoir que tes grands-parents étaient nationalistes, là, je trouvais ça incroyable. En même temps, tu l'es aussi. Là.
Oui, c'est souvent de famille, mais c'est sûr que ça a un gros impact sur ma vision du vivre ensemble et de l'immigration. Ma famille, c'est une histoire d'immigration, mais c'est une histoire d'immigration où les gens qui arrivent ici veulent vraiment participer à la société.
C'est encore le cas en 2026, malgré tout ce qu'on peut entendre de gens qui ne veulent pas se mêler à nous, qui veulent avoir leur propre culture, puis ne pas nous intégrer, mais ne pas s'intégrer.
Ben, moi, je crois qu'il y a toujours des gens qui ne vont pas vouloir s'intégrer, puis qui vont arriver avec des visions un peu plus intégristes de leur façon de vivre. Ça fait partie de la vie, mais je ne pense jamais que c'est la majorité. Puis j'adore, moi, discuter des histoires d'immigration des gens. N'importe quoi, là, je prends un Uber à Montréal, puis moi, je suis du genre à poser des questions, puis à ne pas me mêler de mes affaires. Puis j'aime ça, leur poser des questions, puis dire comment ça se passe, votre arrivée, etc. Puis là, tu entends toutes sortes d'histoires. Puis la vaste majorité des gens vont te répondre, moi, je suis venue ici pour une raison, c'est parce que j'avais davantage d'opportunités, parce que c'est une société qui est démocratique. Puis souvent, ils vont même dénoncer d'autres personnes immigrantes qui veulent pas participer, qui veulent pas s'intégrer. Juste, il y a deux semaines à peu près, j'étais à Montréal, puis je parlais avec un chauffeur, il venait du Pakistan. Puis il me disait à quel point il trouvait ça choquant. Il est musulman lui-même. Il disait, je trouve ça extrêmement choquant, les gens qui font, par exemple, des prières dans les rues. Ils font exprès, c'est de la provocation. On est venu ici, puis c'est pas pour répercuter des pratiques qui sont intégristes, etc. Donc, moi, je pense sincèrement que c'est la vaste majorité qui pense comme ça.
Ouais. Ah, je trouve ça intéressant parce qu'on est vraiment aligné sur les mêmes trucs. Antonine Iaccarini a commencé à... Parce que tes grands-parents semblaient assez politisés. J'imagine que c'était la même chose pour tes parents. T'es arrivé comment dans l'univers de la politique? T'as fini l'école, puis tu t'es dit, tiens, je m'en vais dans les problèmes?
Oui, ben, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé.
Non, pas du tout.
Premièrement, la famille de mon père, ce sont les Iaccarini, c'est des gens plus avec une culture européenne. Ouais. Puis dans ma famille, on avait des discussions politiques, il n'y avait pas de tabou. Ça pouvait parler fort autour de la table, puis c'était pas grave. Puis on était enfants, puis on nous demandait c'était quoi notre opinion sur ci et ça. Donc,
ah, j'aime tellement ça.
J'ai baigné là-dedans. Alors que, tu le sais, au Québec, la politique, c'est vu comme des chicanes, ouais, souvent. C'est un peu tabou. La religion, la politique, tu sais, c'est des sujets, là, on parle pas de ça à Noël. Là,
le sport aussi. T'as peut-être pas connu cette
époque-là. C'est moins chez nous, ça.
Canadien, ouais, nordique, là, écoute, c'était hallucinant. Ça se bagarrait dans les familles.
Ben écoute, moi, tu sais que... Je suis née pendant la série canadien-nordique où il y a eu la grosse bataille là, du Vendredi Saint.
Ouais, OK.
Donc, puis mon père, moi, qui est pourtant un gars de Québec, prenait pour les Canadiens.
Donc, ça,
il y en avait de la chicane, là, tu comprends, avec ses amis. Donc, ça, c'est du côté de mon père, très politisé. Du côté de ma mère, c'est une Québécoise pure laine. Ouais. Ma famille, La Forêt, qui est originaire du Saguenay. Quand même assez politisé aussi, mais plus à la québécoise. Donc, on fait pas des gros débats à table, mais suivait beaucoup les nouvelles, savait ce qui se passait dans l'actualité politique et tout ça. Et je te dirais que l'influence de la famille de mon père dans ma vie a été vraiment très, 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 très présente. Mon grand-père était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Il savait beaucoup, beaucoup de choses, mais il était très respectueux, il te faisait jamais sentir niaiseux. Puis ça... J'essaie de le mettre en application toujours dans ma vie. Je te dis pas que je suis aussi cultivée que mon grand-père, mais je déteste faire sentir les gens niaiseux. Souvent, tu sais, je vais aller parler de politique avec des gens qui connaissent moins ça, puis ils vont me dire « je suis stressée de parler de politique avec toi parce que tu connais beaucoup ça », puis jamais ils vont sortir de la discussion en sentant qu'ils ont été, excuse-moi l'expression, mais « schoolés ».
Ah, je comprends.
C'est jamais mon objectif parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens, ça les intéresse, puis je veux qu'ils s'impliquent. Donc, je veux surtout pas les échauder puis les faire sentir comme étant niaiseux. La démocratie, c'est pour tout le monde, là. Donc, tu es aussi propriétaire du gouvernement que moi, je le suis. Donc, je veux pas jamais prendre les gens de haut. Je te dirais que, oui, j'ai baigné dans la politique, mais à l'adolescence, tout ce que mes parents faisaient, c'était niaiseux, là. Fait que j'ai vraiment... j'ai pas été, tu sais, cette fille-là qui est présidente de sa classe au secondaire. Moi, je faisais le party, puis ce qui était important, c'était le prochain party vendredi, là. C'était ça, mon objectif de vie. Puis c'est vraiment plus au cégep, un peu comme plein de gens, j'ai l'impression, là. Tu sais, où est-ce que tu commences un peu à t'impliquer, puis avoir des causes qui tiennent à cœur, ouais, et tout ça. Puis vraiment, m'impliquer en politique, c'est seulement en 2012, campagne électorale, que là, j'ai vraiment décidé, là, de m'impliquer dans une campagne électorale comme attachée de presse. Puis c'est comme ça que ça a commencé.
Mais est-ce que au cégep, là, t'étais-tu... est-ce que c'était Parti québécois? Saint-Jean, là, on maniait le drapeau, on fumait du chanvre?
J'aimais pas le PQ, même. Tu sais, puis je venais d'une famille quand même très péquiste.
Ouais.
Non, je les aimais pas beaucoup, puis j'étais très... mais tu sais, c'est un classique, là, mais j'étais très gauchiste, là. J'étais très écolo. Je trouvais que le
T'as-tu
système...
T'as-tu été à l'UQAM?
Non, j'ai pas été à l'UQAM. Mais j'aime ça, moi, un peu, toujours faire le contraire des gens. Fait que tout le monde était péquiste, on dirait, là, okay, dans mon milieu.
Puis à l'époque, t'étais Québec solidaire, t'étais Parti libéral.
Ah non, moi, je me suis impliquée au Parti vert. Je me rappelle très bien du sommet des Amériques. Là, je trouvais que la mondialisation, là, c'était bien épouvantable. Puis j'ai vraiment baigné là-dedans. Après ça, ben ma pensée a évolué. Je suis devenue de plus en plus pragmatique.
Ah, t'es devenue une payeuse de taxes.
Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu commences à payer des taxes. Puis t'apprends aussi que il faut que tu fasses des compromis dans la vie. On vit en communauté, on vit en société. C'est sûr que si tu vois tout comme un mauvais, méchant système qui nous avale... Tu sais, moi, c'était un peu ça, mais c'est une pensée politique plus brute, un peu, là, tu sais, d'anti-système. Puis tranquillement, on dirait que j'ai vu la valeur d'avoir un système qui est imparfait, mais qu'on peut améliorer. Mais j'ai arrêté d'être anti-système, tu comprends? Fait que ça a été un peu ça, mon évolution. Puis il y a eu les années libérales, tu sais, Jean Charest avait gagné l'élection en 2003. Il y avait beaucoup de manifestations. À la fin, on était vraiment dans les casseroles et compagnie. Puis j'ai vraiment... c'est là que j'ai décidé de m'impliquer au PQ, qui n'est pas un parti anti-système, outre la question de l'indépendance du Québec, là, qui est quand même plus disruptive. Évidemment, c'est un gros changement qui est proposé par le PQ. Mais je trouvais que c'était le meilleur véhicule pour changer certaines choses. Puis j'ai décidé de m'impliquer dans une campagne locale. Donc, j'étais attachée de presse d'un candidat dans Jean Talon, dans ma circonscription. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en politique.
OK. Puis est-ce que c'est possible de changer les choses quand on est en politique?
Oui.
Dépendant de la hiérarchie, j'imagine, là. Mais est-ce que c'est possible de changer les choses? Parce que, tu sais, des fois, on est un peu... bon, parlons pour moi-même. On est un peu désabusé de la politique.
Arrête
on,
donc,
toi! On dit des années 80, 90, 2000, on dirait qu'il n'y a rien là, qui a changé. Les décisions, c'est tout le temps extrêmement long. Des projets, là, tu sais... je sais pas si tu avais ça quand tu étais jeune, mais nous autres, on nous parlait du pont de Québec. Repeindre le pont de Québec, on a mis un jeu de lumière là-dessus qui n'a jamais fonctionné. C'était une catastrophe. Puis tu vois, on est rendu en 2026. Mais je te parle des années 80. Là. On est rendu en 2026, puis là, le pont de Québec a changé de propriétaire. Puis là, on est en train de penser à remplacer des pièces qui sont un peu trop rouillées.
Il a été peinturé.
Pour par la suite. Oui, entre-temps, il a été peinturé, je pense que c'est au quart ou à la moitié.
Oui.
Puis il a été oublié. Là, on est en train de penser à changer des pièces maîtresses pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Souhaitons que ça fonctionne. Mais de l'extérieur, Antonine, sans jamais avoir été à l'intérieur en politique, j'ai l'impression des fois que ça revient toujours du pareil au même. J'ai pas l'impression que c'est les politiciens qui changent les choses. C'est les sous-ministres qui peuvent changer les choses. C'est les gens qui travaillent pratiquement à la base de la pyramide qui peuvent changer les choses à long terme. Parce que les politiciens, à moins d'être un Pierre Fitzgibbon ou d'être un Christian Dubé ou d'être une grosse tête là, du parti, tu sais, moi, mettons que tu me mets ministre de la Santé demain, ce que tu ne devrais pas souhaiter normalement aux gens, là. Mais mettons que tu me mets ministre de la Santé, je vais toujours être plus porté à faire confiance à mon sous-ministre qui est en place depuis 10, 15, 20 ans puis qui sait comment runner la business en essayant de mettre mon petit grain de sel pour changer les choses. Mais pour moi, qui suis à peu près ça des années 80 parce que j'écoutais le gros moustachu à l'époque, j'ai pas l'impression que ça a changé tant que ça. Fait que quand tu me dis, Yann, c'est possible de changer, moi, ça me rassure parce qu'il y a encore des gens qui y croient puis qui se battent pour changer les choses.
En fait, c'est possible de changer les choses de plusieurs manières, mais je pense que la politique, ça en fait partie. Mais tu l'as dit, c'est lent. Ça marche pas, c'est pas de la magie. On est beaucoup, il y a beaucoup d'intérêts à concilier. Puis chacun joue son rôle. Tu me parles des sous-ministres, je trouve ça intéressant, honnêtement, parce que souvent, je trouve qu'on fait beaucoup de bashing sur le dos des fonctionnaires. Mais chacun joue son rôle. Par exemple, un sous-ministre, bien, c'est quelqu'un qui a une perspective un peu plus à long terme, qui a une connaissance plus pointue des dossiers et qui n'a pas besoin de se faire réélire dans 4 ans. Exact. Donc, lui a sa perspective ou elle a sa perspective. Mais en même temps, c'est une personne qui, justement, n'a pas besoin de se faire réélire. Donc, des fois, il peut avoir une certaine déconnexion aussi avec le public. Peut avoir l'impression qu'il a raison parce qu'il est très rigoureux, mais que dans le fond, il y a aussi le sens commun, puis il y a ce que les gens veulent. Il y a toutes sortes d'intérêts qui rentrent en ligne de compte. Un politicien, ben, il va être plus à court terme. Puis il y a des changements de société qui demandent d'avoir une vision à long terme. Ça, on le sait que c'est un des problèmes majeurs, je pense, de notre société puis du système politique. C'est que ben, si on était des dictateurs, on aurait 35 ans pour effectuer des changements, mais il faut se faire réélire, puis il faut que ça flash.
Ah, c'est le côté positif de la dictature.
Exactement, une dictature éclairée. Il y a des penseurs politiques qui ont fantasmé là-dessus, mais le politicien va avoir sa propre perspective. Si toi, tu veux vraiment pousser pour une cause, ben, tu peux aller en politique, tu vas devoir faire beaucoup de compromis, ça va être long, ça ne marchera pas toujours comme tu veux, mais tu vas être au cœur du pouvoir. Ouais. Alors que si tu t'impliques, par exemple, dans un groupe d'intérêts, toi, mettons que c'est l'environnement, là, ta grande priorité, tu t'impliques chez Greenpeace, bien, tu as moins de compromis à faire. Tu vas pouvoir pousser pour ton idée. Ça va peut-être influencer un peu, mais tu n'es pas au centre du pouvoir. Donc, tout le monde joue un peu son rôle. Si ton attente, c'est de changer les choses rapidement avec ton idée à toi puis ta vision, bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ce qui est rassurant, c'est que l'autre à côté qui ne pense pas comme toi, il ne peut pas faire ça non plus. Il ne peut pas faire des changements drastiques tout d'un coup. Puis c'est cet équilibre-là. Puis, tu sais, tu le dis des fois, tu es un peu désabusé. Je comprends. Moi aussi, honnêtement. C'est juste que, pour moi, je trouve que le cynisme, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. C'est un luxe de gens qui prennent la démocratie pour acquise.
Est-ce que c'est une majorité de gens qui sont à l'Assemblée nationale qui sont là pour les bonnes raisons? Parce que, tu sais,
j'ai beau... J'en suis convaincue.
Ouais, OK. on s'entendra pas là-dessus.
Je sais, puis c'est pas grave. Je sais qu'on a souvent des discussions là-dessus à la radio. Là.
Une Margaret Thatcher, Antonin Icarini, là, pour tous ceux qui l'ont connue, pour tous ceux qui ont lu un livre, qui ont vu sa biographie, que ce soit dans des livres ou encore au cinéma, personne formidable qui était là, puis elle prenait les décisions en sachant très bien que ça allait lui revenir d'en face, mais elle a sorti ses électeurs du marasme économique où il était à ce moment-là. Une Véronique Yvon, là, je suis un homme des femmes parce que oui. Je respecte énormément beaucoup de femmes en politique. Je vais te sortir un dernier nom, là, fais attention pour pas que tes dents tombent, mais une Véronique Yvon qui a amené l'aide médicale à mourir, qui a réussi à aller avec les autres partis pour faire passer ce projet de loi-là qui est passé puis qui aujourd'hui sert à énormément de gens. Puis les gens souffrent moins grâce au fait que Véronique Yvon est passée en politique. Fais attention. Geneviève Guilbeault. Geneviève, je sais que tu penses que je t'haïs, mais je t'haïs pas. Il y a des choses que tu as faites que je trouve pertinentes. Mais je sais que les gens pensent que je n'aime pas Geneviève Guilbeault, mais les bracelets anti-rapprochement,
oui.
C'est elle. T'sais, elle a réussi à amener des choses. Puis de l'autre côté, j'ai mon ami Marc Bellemare, qui est un ami, qui est un ex-ministre de la Justice avec qui je fais les émissions à chaque lundi. Il a voulu s'impliquer en politique, lui, pour abolir le no-fault avec Jean Charest. Puis on lui a menti. On lui a dit « Oui, Marc, tu peux venir avec nous. Oui, tu peux venir avec nous. » Puis une fois qu'il est arrivé au pouvoir, qu'il s'est fait élire, qu'il est devenu ministre de la Justice, ben il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire avec le maudit no-fault. Des gars sous qui se blessent dans leur voiture, il faut continuer de les dédommager jusqu'à la fin de leur jour. C'est aberrant, ça. C'est complètement aberrant. Puis Marc a pris une décision qui a fait en sorte qu'on est devenu amis par la suite, parce que je ne suis pas ami avec les policiers. Mais Marc a pris une décision en disant, tu sais quoi, ça ne correspond pas à mes valeurs. Ciao, bye.
Exactement.
Ça, là.
Tu respectes ça, right?
Ben, c'est pour ça que je suis devenu ami avec.
Ouais, mais c'est ça, parce que on ne partage pas nécessairement la même vision des politiciens. Moi, ma prémisse de départ, c'est que les gens vont en politique en général pour les bonnes raisons. Puis il y a des mauvaises personnes en politique, là, il y en a partout, là. Ça c'est possible. Mais à la base, même si c'est pas mes idées à moi, si tu vas en politique parce que tu penses que ton changement que tu veux apporter ou la manière dont tu veux gouverner, c'est la bonne pour notre société, moi, je vais avoir du respect pour ça. Puis tu as nommé des noms. Margaret Thatcher... Moi, je ne trouve pas qu'elle fait que des bonnes choses. C'est sûr qu'elle est plus à droite que moi, mes valeurs à moi.
Vers la fin de sa vie, c'est un petit peu plus.
Oui, puis tu sais, on pourrait nommer des exemples de trucs un peu moins glorieux, mais c'est vrai qu'elle a sorti le pays du marasme économique. Puis surtout, et ça, en vieillissant, là, c'est devenu ma grille d'analyse principale. C'est est-ce que tu es capable de prendre de la chaleur pour ce à quoi tu crois? OK? Parce que je trouve qu'il y a énormément de politiciens qui sont ultra vacillants. Dès que les médias ou que la population, où il y a un petit peu de chaleur, là, ça manque, là. Ah ben là, on change d'idée, puis on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Non, si toi, ta pensée politique, c'est un système de valeurs et une vision qui est claire, ben des fois, ça va plaire, et des fois, il va y avoir de la chaleur. Mais si tu plies à chaque fois qu'il y a de la chaleur, ben ton système de valeurs, il tient plus. Alors là, c'est quoi qui arrive? Ça brise le lien de confiance. Tu sais, je pense que le dossier du troisième lien à Québec, là, c'est ça. C'est pas basé sur quelque chose qui a été cohérent du début à la fin et ça a précipité la chute de la CAQ parce que les gens, même s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec le troisième lien, ben ils se disent « Oui, mais c'est quoi, toi, ta ligne de conduite par rapport à ça? Sur quoi tu te bases? Est-ce que tu te dis « ben moi, c'est vraiment, je veux satisfaire la population puis je m'en fous qu'il n'y ait pas l'achalandage maintenant puis que ça ne le justifie pas? » Les gens le veulent, je vais le faire. Ça, c'est ton système de valeur, mais tu le tiens jusqu'au bout. Puis si c'est, ben non, on va se fier sur des données, ben une fois que tu as tiré la plug du troisième lien, puis tu dis qu'il n'y a pas de données,
ouais.
Ben tu ne le replugues pas 6 mois plus tard.
Exact.
Tu sais, c'est ça, moi, je trouve, qui alimente le plus le cynisme. Mais comme je te dis, moi, je conviens que le système crée ça, puis que la politique fait ça. Mais je l'accepte pas. Deux, je vais toujours valoriser les politiciens qui se tiennent debout, même quand ce n'est pas les mêmes valeurs que moi. Puis je vais te donner un autre exemple qui peut sembler un peu bizarre parce qu'il est impopulaire en ce moment puis que c'est pas du tout quelqu'un aussi avec qui je partage beaucoup de valeurs, mais c'est Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, je le trouve trop simpliste dans ses lignes puis il a pas réussi à s'adapter à son nouvel adversaire politique. Par contre, comme Stephen Harper, j'ai jamais senti que c'était des gens qui te disaient ce que tu voulais entendre. C'est non, c'est ça qui est ça. Voici ce que notre parti propose, et tant pis. Puis si je m'en vais devant une salle de gens qui sont hostiles à ce que je dis ou dans un média qui n'est pas d'accord avec moi, je vais quand même tenir ma ligne.
Ouais.
C'est jamais une bonne idée d'essayer de plaire à tout le monde. Puis je pense d'ailleurs ça a été un des enjeux de la CAQ. Il y avait un petit quelque chose pour tout le monde en 2018.
Ouais.
Mais quand ça se met à moins bien aller, c'est quoi le socle de valeurs communs?
Je pourrais dresser le même parallèle avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu sais,
qui, ben, il est clair, moi, je
trouve. À un moment donné, on a sorti un sondage dans lequel, si jamais il renonçait à sa règle numéro 1, c'est-à-dire de faire un référendum dans son premier mandat, ben, il pouvait voir monter ça jusqu'à 39 % de mémoire,
oui.
Le sondage. Et il a dit, ben, les gens n'auront plus confiance en moi. Exact. Si je reviens sur ma promesse, ça c'est le lendemain, si je reviens sur ma promesse, les gens n'auront plus confiance en moi. Je dois continuer avec ce que j'ai mis en place. Je demeure persuadé qu'il va reculer
le 8-9 % qui est recherché,
ouais.
Ça serait au prix de son système de valeurs.
Oui, exact.
Et du lien de confiance. Donc, ça ne vaut jamais la peine de faire ça.
Je voterai pas PQ, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, avec ce qu'il dit là, il se rapproche de mes valeurs.
C'est ça.
C'est-à-dire...
Puis je pense qu'il y a des gens qui sont pas péquistes puis qui pensent voter pour le PQ justement à cause de cette transparence-là, okay, et de cette cohérence. Écoute, j'ai entendu des gens qui me disaient « Moi, je suis contre le référendum, mais je vais quand même voter pour le PQ. »
Ouais, mais ça, c'est pas la première fois que ça arrive au Québec.
Non, on s'entend, mais là, il en promet un dans un premier mandat. Ouais. C'est un petit peu plus
On va le mettre au pouvoir, mais on va voter non si jamais il y a un premier référendum.
Ben quand même, moi, je trouve que c'est un accomplissement. Tu as parlé de Véronique Yvon aussi. Oui. Moi, j'ai travaillé avec Véronique. Puis, tu sais, tantôt, tu disais « Je trouve ça long, la politique. »
Ouais.
La loi sur les soins de fin de vie au Québec, ça a été des années de travail. Jamais elle n'a lâché. Il y a d'autres politiciens aussi qui ont travaillé à ça. Elle, elle est comme un peu la figure de proue. Mais ça a été un travail transpartisan. Moi, je pense pas qu'on peut tout régler de façon transpartisane dans la vie. C'est comme un peu une illusion. Moi, je vais faire de la politique autrement. Personne ne va se chicaner.
Ouais.
On va tous chanter Kumbaya. Ça se peut pas. Il y a des conflits dans la société. La politique, il y a des conflits qu'on gère de manière politique. C'est pas tout le temps beau. C'est pas tout le temps un salon de thé. Par contre, il y a certains enjeux comme ça qu'on peut traiter de cette manière-là. Mais c'est, je pense que ça s'est étalé comme sur 5-7 ans, là, cette affaire-là. Là. Donc, oui, il y a des changements qu'on peut faire en politique. Mais si tu arrives et tu te dis, moi, là, en 6 mois, il faut que ce soit réglé, là, moi, ma priorité, ben c'est pas de même, ça fonctionne. Puis je trouve que, d'ailleurs, il y a un aspect générationnel. Parce qu'on veut des jeunes en politique qui brassent la cage puis qui sont pressés. Évidemment, pas juste des personnes qui ont de l'expérience puis qui disent, ouais, c'est pas grave, ça va s'arranger, j'en ai vu d'autres. Tu sais, ça prend les deux. Ce que je trouve que les plus jeunes en politique ont tendance à se décourager vite. On en a vu là, dans les dernières années, qui disent, j'ai essayé de faire des changements et ça n'a pas fonctionné. Ben, essaye encore. Essaye encore. Il n'y a personne qui a dit que c'était facile. Puis moi, je ne veux pas vivre dans une société où il y a un gouvernement qui arrive, qui revire toute la société de bord à chaque fois. Mm-hmm. On a une certaine stabilité aussi, puis il faut voir la valeur de ça. Même si, des fois, il y a des choses qui nous déplaisent, on ne vit pas dans une société où on a des changements drastiques à tous les 3 ans. Là. Puis c'est correct aussi, ça a une valeur, ça, au niveau démocratique.
Je vais te poser des questions parce que là, tu es analyste en politique, tu es experte en affaires publiques, tu es coach en prise de parole, Antonine Iaccarini. Est-ce qu'on pourrait un jour, ça c'est dans ma dictature là, que je vais me faire, je vais m'acheter un île un moment donné, là, ouais, dans le milieu du fleuve Saint-Laurent.
Avec une couronne sur la tête puis un trône.
Oui, exact. Est-ce qu'un jour on pourrait abolir les partis politiques puis venir avec 125 cerveaux qui rentrent à l'Assemblée nationale puis quand il y a des idées qui sont proposées, ben procéder à un vote qui est secret avec on pèse sur le piton, il n'y a personne qui sait pour qui tu as voté, mais on sait qu'il y a 75 députés, exemple, qui ont voté pour que oui, l'aide médicale à mourir puisse passer. Ça pourrait être ça, en venir à ça un jour?
Moi, j'y crois pas. Je pense qu'à un moment donné, les gens se réunissent dans une formation politique autour de certaines valeurs communes. Là, tu vas me dire, c'est pas toujours le cas, t'as raison. Puis en plus, on est dans une époque où tu changes de chef, puis le parti change assez profondément, ouais, aussi. Mais je pense que c'est correct qu'il y ait une certaine discipline de parti, parce qu'il y a une clarté aussi sur, quand tu votes, toi, pour quelqu'un,
oui,
faut que tu saches c'est quoi. Dans le fond, pourquoi, oui, tu votes. Donc, on peut voir tout le négatif du marketing politique,
la ligne de parti.
Ouais. Mais en même temps, moi, je trouve que ça protège le citoyen. Parce que si tu votes juste pour des individus, qu'est-ce que ça va donner comme output à la fin, quand c'est passé à travers le système?
Ouais, il y a moyen d'organiser ça, mais
tu sais, il y aurait un programme par personne. Ouais. Tu sais, excuse-moi, mais t'élis-tu les programmes? Moi-même, je suis analyste politique. Ouais. Je les lis, là.
J'ai pas le choix.
Mais tu sais, je veux dire, les gens les lisent pas. Fait que là, en plus, on va multiplier. Mm. J'essaie de voir au niveau pratico-pratique, puis je me dis, je pense qu'il y aurait des effets pervers plus grands que les effets bénéfiques.
Parce que j'ai l'impression, puis c'est une impression, tu sauras, toi, t'es à l'interne, t'as vu comment ça se passait. J'ai l'impression, exemple, à la CAQ, que c'est une garde rapprochée. C'est un François Legault avec un Martin Koskinen, puis peut-être deux, trois ministres là, qui sont plus influents, qui se jasent ensemble pour diriger le Québec puis proposer des choses par la suite. Puis là, après ça, c'est retransmis à travers le parti. Puis comme ils sont au pouvoir, bien là, ils sont capables de faire passer le truc. Mais à 125 personnes sans aucune équipe, c'est 125 cerveaux qui travaillent ensemble pour le bien du Québec. C'est sûr qu'il y aurait moyen de peaufiner ça, là, mais je trouve que les lignes de parti, moi, m'agacent beaucoup. Tu sais, puis parlons de Charles Milliard. Charles Milliard, quand j'ai entendu parler de lui, il se portait candidat dans une course à la chefferie du Parti libéral. Il n'y a pas un chat qu'il connaissait. Il venait de Trois-Rivières. Il était dans la communauté d'affaires. Les gens me disaient, Yann, watch le ballet, ça va monter vite. Puis là, je regardais, je pense que les odds, c'était 1%. Ça n'avait aucun sens. Finalement, ça a monté. Arrive avec Pablo Rodriguez. Pratiquement kiff-kiff, sauf que Pablo a une avance. C'est Pablo qui passe. On connaît les déboires du Parti libéral. Pablo s'en va. Charles Milliard arrive. Mais Charles Milliard m'a dit, quand je vais avoir les clés de la voiture, il m'avait dit les clés de l'autobus. Quand je vais avoir les clés de l'autobus, ça va fonctionner. Puis il était devant moi, ben devant moi, devant mon ordinateur. Il était, ça va fonctionner à ma manière. Je peux te dire que là, actuellement, Charles Milliard, il n'aimera pas l'image, mais en même temps, il me connaît. Il a de l'air plus du caniche de son parti que de la personne qui tient les ficelles. C'est, il a de l'air à la solde de son parti. Fait que c'est pour ça que je me dis, la ligne de parti, je ne l'aime pas tant. De voir que c'est un ou deux cerveaux qui dirigent l'Assemblée nationale plutôt que 125,
ouais.
Ça m'agace.
Je comprends. En même temps, je pense que tu as une vision un peu caricaturale de la chose parce que.
Mais je suis animateur de radio, ben, tu t'attends aussi, à quoi?
Ben, oui, je sais. Puis moi, je suis plate, puis je suis nancée, qu'est-ce que tu veux. Mais, tu sais, j'ai passé quelques années dans l'appareil gouvernemental et c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas deux gars dans leur bureau qui dirigent tout. Il y a l'établissement de l'agenda politique puis des priorités, c'est une gymnastique compliquée.
Okay. Va dire ce que j'ai entendu, OK?
Vas-y.
Tu détruiras tout ce que je viens de dire dans les prochaines secondes. Au début de la CAQ, tu avais un Charles Sirois qui était omniprésent avec le chien de garde Martin Koskinen, puis il y avait François Legault. Puis on me disait que c'était ces trois personnes-là qui dirigeaient le Québec. J'imagine que c'est faux.
Non, parce qu'on est dans un système politique où le chef de parti et le premier ministre, une fois au pouvoir, ont énormément de pouvoir. Là. T'sais, le président des États-Unis n'a pas autant de pouvoir dans son système politique qu'un premier ministre du Québec ou un premier ministre du Canada. On a des systèmes politiques qui sont complètement différents et il y a moins de contrebalance. Une fois que tu es élu, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, moi, je ne dis pas le contraire. Là. Un premier ministre, ça a énormément de pouvoir et c'est l'élément numéro un qui va déterminer les priorités. Par contre, ces priorités-là sont établies pas juste dans sa tête. Premièrement, tu as un parti politique dans lequel il y a des instances, puis il y a des priorités qui vont être mises de l'avant, des mesures qui vont être mises dans des programmes, dans des plateformes. Ça existe, mais à différents degrés dans les partis. Si tu prends la CAQ, c'est sûr que la vie militante n'est pas extraordinaire, puis que M. Legault, je veux dire, le parti politique était tout articulé autour de lui. On est d'accord. Si tu prends le PQ ou QS, ben c'est un peu l'autre extrême. Les membres décident quelque chose, bonne chance pour ne pas le mettre en application, même si tu n'es pas d'accord. Parle-en avec Gabriel Nadeau-Dubois, je pense qu'il y en aurait long à dire là-dessus. Fait qu'il y a des degrés. Après ça, tu embarques, mettons que tu gagnes, là. Toi, tu es chef de parti, puis là, tu gagnes ton élection, tu deviens premier ministre. Bien, toi, tu avais des idées dans ta tête. Là, tu arrives au pouvoir, puis il y a des fonctionnaires qui disent « Yannick, ça ne marche pas comme ça du tout, tu ne peux pas faire ça comme ça, voici nos accords internationaux te limitent, on a déjà fait telle chose, puis ça n'a pas fonctionné. » Là, tu arrives avec le savoir de l'appareil public, puis là, ça va nourrir aussi tes priorités, puis ça va les transformer également. Après ça, tu as la pression médiatique, les groupes qui vont faire des initiatives dans la société civile puis qui vont faire évoluer les choses. Donc, moi, je ne le vois pas comme ces deux gars dans un bureau qui établissent toutes les priorités. Je vois ça comme un système qui est beaucoup plus compliqué que ça. C'est bien fait. 4 ans plus tard, tu t'es obligé de retourner devant tes électeurs. Puis là, si tu as fait des conneries puis des bêtises, ben t'as un coup politique à ça, puis tu te fais sacrer à la porte.
C'est trop long, le 4 ans?
Des fois, oui. Puis je pense que c'est pour ça, des fois aussi, qu'on a des gouvernements minoritaires. Et c'est pas toujours une mauvaise chose. Tu sais, individuellement, on vote pas pour un gouvernement minoritaire. Toi, mettons que tu vas dans l'urne, tu votes pour quelqu'un, c'est pour qui gagne d'habitude un gouvernement majoritaire.
Ouais.
C'est juste que là, on additionne les votes, puis ça donne minoritaire. Mais je trouve que c'est correct aussi parce que ça fait des périodes de temps où le gouvernement n'a pas nécessairement les coups des franges, ne peut pas faire tout ce qu'il veut, tu sais. Puis ça fait en sorte aussi qu'il y a de la négociation avec les autres partis politiques. Moi, je ne pense pas que les partis vont disparaître. Par contre, le rôle du député, il y a vraiment un enjeu. Ils servent un peu à rien si tu n'es pas ministre ou tu sais, tu es porte-parole de l'opposition en matière de santé puis du scandale de, du mois. Là, là tu sais, tu as un impact. Mais mettons que tu es député du gouvernement. Tu sais, ton parti a gagné, toi, tu es député, mais tu n'es pas ministre. On les fait pas, on les met pas en valeur, ces personnes-là. Ils n'ont pas le droit de sortir de la ligne de parti, tu as raison. Tu sais, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, des fois, de les mettre sur certains dossiers puis de leur donner vraiment liberté? OK, on te sort de la ligne de parti. Tu travailles sur tel enjeu que le gouvernement, on a besoin d'avoir du conseil, puis on a besoin d'avoir un plan d'action qui soit mis en place, puis on veut pas que ça se fasse, par exemple, dans les ministères, on voudrait que ça se fasse à l'Assemblée nationale. Tu sais, il y en a eu des initiatives comme celle-là. Moi, un gars que je trouve qui a shiné pendant le dernier mandat, c'est Yann Lafrenière. Quand il a commencé en 2018, il était pas ministre tout de suite, mais il a pas attendu d'être ministre pour être très proactif. Samuel Poulain aussi, d'ailleurs, là, sur plein de dossiers.
On s'entend que si la CAQ avait bien été, Samuel Poulain ne serait pas ministre.
Peut-être, ou peut-être pas, qui sait, c'est autant hypothétique.
Il y a beaucoup de ministres qui ont été nommés là, dans les derniers mois qu'ils n'auraient jamais eu leur chance si la CAQ n'avait pas été aussi bas dans les sondages.
Ça, c'est les cycles politiques. Mais cela dit, c'est des députés qui n'ont pas attendu d'être ministre pour faire quelque chose. T'sais, je pense à Yann Lafrenière sur la question de l'exploitation sexuelle comme telle. Au début du mandat de 2018, il a travaillé de manière transpartisane avec les autres sur un plan d'action. Ben moi, je pense qu'on devrait multiplier ces choses-là. Plutôt qu'avoir, tu sais, Claire Samson, la très divertissante Claire Samson, disait « on est des plantes vertes », mais il n'y a pas de raison pour ça. Deuxième exemple, à chaque année, au printemps, il y a l'étude des crédits. C'est vraiment plate, mais c'est une reddition de compte qui est hyper importante. C'est les oppositions qui épluchent toutes les dépenses du gouvernement de la dernière année. Puis là, dit « pourquoi vous avez dépensé tant pour ça? Pourquoi vous n'avez pas dépensé votre enveloppe? Vous aviez dit que vous alliez faire ça, etc., etc. » Et les députés gouvernementaux sont autour de la table, mais ils posent des questions plantées. Tu sais, c'est les ministres qui envoient des questions. Demande-moi donc comment, qu'est-ce qu'on a fait là, en matière de protection des rives, de rivières. Là? Fait que là, t'as le député, lui, qui arrive puis qui dit, monsieur le ministre, là, comment vous avez fait pour vraiment changer la donne en matière de protection des rives? Puis le ministre, c'est comme, très bonne question. Mais justement, on a fait plein de choses. Hey, ça, là...
J'imagine que c'est pas Christine Fréchette là, qui avait envoyé les questions pour la dette du Québec, là.
Non, mais non, ça, c'est un député d'opposition.
Ouais.
Moi, je te parle des députés de leur propre parti.
Ouais, c'est un ridicule.
Tu sais, je m'excuse, ça dévalorise le rôle de député. Ça augmente le cynisme. Même moi, qui veux pas être cynique, je le suis. Puis je me dis, sérieux, guys, on peut faire mieux, là.
Tu devrais pas être cynique en politique.
J'essaie.
Tu devrais pas être cynique. Moi, le monde qui sont cyniques...
Coach-moi pour ne pas être cynique.
Non, je suis un peu pire. Je suis pire que toi, je pense. Est-ce que ça prend de la compétence pour être un politicien?
Hey, là, tu rentres dans le cœur de ce qui m'énerve le plus en politique.
Ouais.
Je trouve qu'il y a pas assez de compétences. Tantôt, tu me parlais des sous-ministres puis de la fonction publique.
Ouais.
Tu sais... Là, il y a plus de compétences, mais...
Parce que la démocratie permet à tout le monde de pouvoir se présenter en politique.
Oui, puis d'ailleurs, en passant à la compétence, c'est pas nécessairement là, d'avoir des gens qui ont toujours des hautes études ou qui ont 35 ans d'expérience. Hein.
Mais ça me prend une certaine expérience de vie. Là.
Moi, j'aime bien avoir des gens qui ont l'expérience de vie, mais j'aime bien aussi avoir des gens plus jeunes qui apportent cette perspective-là, parce qu'il n'y a pas juste de faire des politiques, il y a de représenter des citoyens aussi, puis il faut amener la voix de certaines personnes. Mais monter une équipe, ça demande plusieurs sortes de compétences. Tu peux être, genre, avoir deux doctorats, puis être complètement déconnecté de la population puis du sens commun.
D'accord.
Donc, il y a plein de formes de compétences. Par contre, je dois dire que dans mes années où j'étais en politique et les années subséquentes où maintenant j'analyse sur les lignes de côté, il en manque de compétences.
C'était qui les légumes à cette époque?
Les légumes à mon époque. Je ne vais pas nommer de nom, mais écoute, en politique, là,
oui,
tu as des gens qui se sont retrouvés là un peu par la force des choses. Par exemple, je pense à certains châteaux forts, que ce soit de n'importe quel parti politique, où tu as des gens, à un moment donné, qui n'ont pas d'efforts à faire pour se faire élire. Ça, des fois, ça a donné lieu à des députés qui, ma foi, n'ont pas fait grand-chose. Ils ont comme ridé une vague, là, se sont laissés aller. Là,
ça peut être des comtés où c'est clair que c'est un libéral qui va passer, ou c'est clair que c'est un péquiste qui va passer. Puis là, on met... Ça peut être des amis du parti ou des gens qui ont travaillé assez longtemps pour le parti pour dire qu'ils ont laissé leur chance.
Ouais. Ouais, ça, j'en ai croisé pas mal. Je te dirais aussi que... Tu sais, tantôt, tu me parlais de Marc Bellemare. Il était avec une idée, il voulait faire quelque chose. Je te dirais que les gens qui arrivent avec... une idée là, seulement. Là. Je trouve ça limité. Parce que la politique, t'sais, il faut que tu aies une vision un petit peu plus large, à mon avis, pour durer puis pour avoir un impact qui est réel. Il y a des gens aussi, ils vont en politique, puis je comprends pas pourquoi ils sont en politique. Tu sais, mettons, Simon Jolin Barrette, je le sais pourquoi il est en politique. J'ai compris c'était quoi sa vision du monde. Il a fait plein de réformes, il a fait plein de choses. Je comprends. Il y en a d'autres, là, je nommerai pas de nom, mais je comprends pas pourquoi ils sont là. J'ai l'impression que c'est soit un projet de fin de carrière ou je suis bon en com, tu sais, puis... J'ai comme envie là, de faire ça, mais on dirait qu'ils le font pas pour le monde. Ils parlent jamais du monde, ces gens-là.
Est-ce que tu as remarqué, une fois que tu étais à l'interne pour un parti politique, as-tu remarqué que les gens étaient un peu défocusés sur la population en général? Ça peut-tu arriver de voir Philippe Couillard qui l'échappe avec un 75$ d'épicerie? Je pense que François Legault avait sorti une autre patente comme ça. C'était le prix des loyers. T'as-tu remarqué qu'il y a une déconnexion des fois entre certains politiciens et la population en général?
Oui, c'est pas la classe politique, elle n'est pas 100% représentative de la population. Donc, il y a une déconnexion. C'est des gens nécessairement plus privilégiés. C'est en moyenne des gens qui ont plus étudié. Donc, oui, à un moment donné, tu viens déconnecter. Moi, je pense que si, même si tu es député depuis plusieurs années, tu as été ministre, tu es avocat, t'es comme tu fais partie un peu des classes plus élevées de la société, il y a toujours moyen de rester connecté sur ton monde, à mon avis. Puis ça vient à... Je pense que c'est une question de valeur. Est-ce que tu t'intéresses vraiment au monde? Et là, je dois amener ce concept qui, des fois, est associé, je trouve, faussement juste aux femmes en politique ou aux femmes dans la société, c'est le concept de l'empathie. L'empathie, là, c'est pas genre d'avoir pitié du monde puis de toujours être dans les sentiments, c'est pas ça. L'empathie, c'est d'être capable de te mettre à la place de quelqu'un. Tout irait mieux dans la vie si tu disais, OK, là, j'ai cette réaction-là par rapport à cette personne-là, par rapport à cette mesure-là, à cette politique-là, à ce besoin-là, à cet enjeu-là. Maintenant, je vais sortir de moi deux minutes, là, puis je vais me mettre dans les shorts de quelqu'un d'autre. Comment je verrais ça si j'étais à sa place? Mm-hmm. Ça, en politique, il y a des gens qui l'ont, et il y a des gens qui ne l'ont pas. Et ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent avoir un succès momentané, mais éventuellement, ils vont se planter. Parce que c'est ça la clé à la fin de la journée. Si tu as de l'empathie, tu vas faire des meilleures politiques. Si tu as de l'empathie, tu vas anticiper les problèmes aussi, parce que tu vas dire, OK, ça va réagir comme ça, ça va être accueilli comme ça, ça va être reçu comme ça. Puis je trouve que quand on parle de compétences, ça passe beaucoup par cette empathie-là. Et après, l'autre partie, c'est des compétences en gestion. Moi, je pense que dans chacun des cabinets, il devrait avoir des vrais gestionnaires à un moment donné. Et les RH en politique, là, je veux dire, c'est vraiment problématique.
Ah ouais?
Moi, je suis arrivée en cabinet, là. Personne qui m'a demandé si je savais faire ma job, là. C'est comment? T'as l'air motivé. Voici un téléphone, t'es maintenant attaché de presse. Tu sais, t'as pas de formation, on te donne pas d'objectifs. Tu sais, dans une job sérieuse, on te donne des objectifs, puis à un moment donné, on t'évalue, là. Ça peut être plus ou moins formel. Quand quelqu'un quitte un emploi dans des endroits bien organisés, on va lui demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il quitte. On va se remettre en question comme employeur. Au gouvernement, c'est n'importe quoi.
Un tourniquet.
C'est un tourniquet. Puis, honnêtement, tu sais, des directeurs de cabinet qui sont nommés en début d'un nouveau mandat d'un parti qui arrive au pouvoir, là, c'est vraiment souvent n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi.
Je vais te poser une question délicate, Antonine Iaccarini.
Ah non!
T'es analyste en politique, experte en affaires publiques, coach en prise de parole. Antonine, est-ce que ça s'est amélioré, ce qu'on pense des femmes en politique?
Moi, je trouve que oui.
Ouais.
Vraiment.
Pourquoi? Parce qu'on a mis des modèles qui avaient du sens?
Ben, tu sais, faire des grands changements, comme remettre en question le patriarcat, là, tu sais, je veux dire, c'est pas rien. Pendant 4000 ans, c'est les hommes qui ont dominé toutes les sphères de pouvoir.
Puis ça allait bien dans ce temps-là.
Ça allait assez bien.
Ça allait bien.
Ben, j'imagine. Ça devait aller bien quand t'étais un gars, qu'est-ce que tu veux. Mais, cela dit, ça fait seulement quelques décennies que les femmes ont investi les sphères politiques. Ça fait même pas 100 ans que les femmes ont le droit de vote, là, si je ne m'abuse. Là. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que les Québécoises ont eu le droit de vote. Donc, c'est sûr que ça ne change pas du jour au lendemain. Puis qu'on a tous on est dans un système qui n'a pas été pensé par des femmes. Fait que là, t'es comme toujours à contre-courant, puis t'essayes de naviguer là-dedans, puis de changer les choses. Ça ne se fait pas en criant ciseaux. En même temps, ça ne se fait pas non plus en attendant que les choses se changent toutes seules. Donc, tu trouves un équilibre là-dedans. Moi, je considère que les choses évoluent dans le bon sens. Des fois, il y a des step back. Des fois, il y a des moments où on recule. Mais globalement, moi, j'y vois un progrès. Juste les années où moi, je suis arrivée en politique versus maintenant, c'est déjà le jour et la nuit, là. T'sais, on a des papas, des mamans députés qui amènent leurs enfants, leurs bébés à l'Assemblée nationale. On change les horaires, on essaie d'être plus... Tu sais, c'est toujours un peu poussiéreux, là, les systèmes de l'Assemblée nationale et tout ça. Mais moi, je trouve que ça a changé.
Les commentaires que vous recevez... Dans le temps, ça fait déjà quelques années, il y avait une Véronique là, qui faisait de la télé, par la suite est allée à la Coalition Avenir Québec, Véronique Tremblay, qui nous racontait en ondes les commentaires qu'elle avait lorsqu'elle était à télé. Ah, vos cheveux, c'est pas beau, vous avez raté votre teinture, trop court les cheveux, la mèche était pas belle, votre tailleur est laid, ça fit pas avec vos dents. Tabarouette, ça va-tu? Puis pourtant, les gars, ils reçoivent pas ce genre de commentaires-là. Non. Quand le débat des chefs, on commence à parler de comment l'aspirante à la gouvernance du Québec, comment elle est habillée. Quel est le lien de parler de son tailleur? T'sais, on fait pas ça avec les gars. Là.
Non, parce qu'on associe les gars naturellement au pouvoir, au leadership. Alors qu'une femme, c'est très inconscient. Là. Il n'y a personne qui va dire « Ouais, moi, je pense que les femmes ne devraient pas avoir de pouvoir. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ce qu'on attend d'une femme, c'est d'être belle et désirable. Ce qu'on attend d'un gars, c'est pas ça.
Bien, belle et désirable, c'est pas un défaut. Là.
Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, on vieillit, puis des fois, on n'est pas toutes des mannequins de Victoria's Secret, puis c'est pas pour ça qu'on se présente en politique. Fait que ça devient vraiment bizarre d'avoir cette attente-là tout le temps envers les femmes, et de se faire classer sur ta beauté puis ton linge, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi t'écoutes pas ce que je dis? Tu sais, moi, j'applique pour faire des politiques publiques.
Ouais.
C'est quoi le rapport? Donc, les gars aussi reçoivent des commentaires désobligeants. Là. Tu regardes n'importe quelle publication sur les médias sociaux en ce moment d'un politicien, tu regardes en dessous, c'est pas gentil.
Ben, Justin Trudeau, il a passé au cash pour son apparence.
Monsieur Legault aussi. Mais oui, pour l'apparence aussi. Mais si tu regardes les commentaires qui s'adressent aux femmes, il y a deux dimensions supplémentaires. La première, c'est la beauté. On va faire dire tes lettres. Moi, j'ai publié une photo de moi à la fête nationale avec un petit drapeau. Il y a un gars qui me semble être comme un fédéraliste enragé. Là. Puis il m'a répondu « Tu es laide ». Je me disais « OK ».
c'est tout le processus. T'sais, j'en ai fait des niaiseries dans ma vie. Là. Un moment donné, tu m'avais chicané.
Oui.
J'avais pris une photo de Manon Massé qui critiquait quelque chose. Je ne me rappelle pas c'était quoi. Puis j'étais fâché. Puis là, je disais elle veut gérer un pays, pas capable de gérer ses dents.
Oui, je me rappelle de la photo, c'était, disons...
Bon, t'étais outré, et avec raison, là, t'étais outré. Ben, tu sais, on en a fait des niaiseries, mais c'était pas parce que c'était une femme, c'était juste parce qu'elle était pour Québec solidaire que je voulais l'achaler. Mais pourtant, Manon Massé, parmi les personnes qui sont passées en politique, c'est en a bien une avec qui j'aurais aimé aller prendre une bière, c'est elle, même si je m'entendais pas.
Mais t'as eu ce réflexe, là.
80% des choses qu'elle dit, je m'entendrais pas avec.
Là. Mais t'as eu le réflexe parce que t'étais en désaccord avec son idée de t'attaquer à son apparence physique.
Ouais.
On fait plus ça avec les femmes, mais tu pourrais parler à Gaétan Barrette, lui aussi, là, il s'est fait critiquer.
Gaétan Barrette.
Ministre de la Santé, qui était en surpoids.
Christian Dubé, il a passé aussi.
Mais, fait que l'apparence, la pression est vraiment plus grande pour les femmes, ça, c'est sûr, c'est un given. Puis l'autre affaire, c'est les commentaires sexuels. Donc, plus loin que la beauté seulement, c'est de sexualiser positivement ou négativement des femmes en politique, mais les femmes dans les médias aussi, là, j'ai envie de dire, les femmes personnalités publiques.
Ouais.
Et là, ben, quand tu envoies chier un politicien homme, là, tu vas dire, t'es un ci puis un ça, nanana. Quand on voit des gens qui envoient promener des politiciennes, pas loin, c'est jamais loin le commentaire, genre, va te faire violer, des affaires de même. Aussi, on va s'attaquer à leur maternité. Mauvaise mère, tes enfants doivent avoir honte de toi. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui pourrait faire le plus mal possible? Je te parlais d'empathie tantôt, là. C'est exactement l'inverse. C'est qu'est-ce qui pourrait faire le plus mal à une femme? Puis on est tellement habitué, tu sais, la question de la beauté, mettons, le gars qui m'a dit que j'étais laide hier... Je m'en fous, en fait, de ce qu'ils pensent. Mais sur le coup, ça m'a habité comme commentaire. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que depuis que je suis jeune, je me fais dire qu'il faut qu'on soit belle. Puis là, je me dis... Fait que c'est... Tout est inconscient, mais je me dis, j'ai échoué.
Je comprends très bien.
Je suis laide. Puis là, je suis comme, hey, on s'en fout,
mais,
ce gars-là.
Mais somme toute, Antonine, ce que tu nous dis, c'est que les femmes sont de plus en plus acceptées en politique. Puis ça, c'est quelque chose de...
Il y a plus de modèles. La parité, tu sais, on s'est forcé à un moment donné à mettre une parité avec les défauts et les qualités d'une telle politique.
Mais moi, c'est le danger que je voyais, parce que tu peux mettre des gens qui sont incompétents, Puis là, ben, la personne va se faire ramasser pour ce qu'elle a mis en place. Puis là, les filles qui veulent, qui s'intéressent à la politique vont
ça
dire,
peut nuire.
Ils sont en train de la ramasser
parce
que c'est une femme, alors que c'est peut-être juste en raison de ses compétences. Fait que moi, la parité, s'il y a plus de femmes qui sont compétentes dans tel domaine, mettez-moi plus de femmes. C'est plus de gars qui sont compétents. Mais
oui, mais à un moment donné, il faut les créer, ces compétences-là. Si on n'a jamais la chance, tu sais, je vais dire comme les colocs, tu me passes jamais à POC, je peux pas scorer de but. La première fois que tu vas me passer à POC, il va y avoir des femmes que tu vas mettre en politique, puis ça va être une expérience malheureuse. Elle n'était pas bonne.
Ouais.
Mais comment ça se fait qu'on juge toute la gente féminine sur une femme alors qu'on ne le ferait jamais avec un homme? Donc,
mais
moi,
ça
je
demeure
trouve que
de
ça
discrimination.
Oui, tu as raison. Puis ça a des effets pervers. Mais en même temps, c'est ça qui permet comme de revirer à boule de neige de l'autre côté.
Puis on a eu des beaux
donné,
exemples.
T'sais.
En politique, on parlait de Véronique Yvon tantôt. Antonine, on doit faire une courte pause parce que le temps presse. Je vous rappelle qu'on est avec Antonine Iacarini. Elle est analyste politique. On peut la voir à la télé. Elle est experte en affaires publiques, coach en prise de parole. C'est aussi une collaboratrice de l'émission. C'est toujours un plaisir de lui parler. On fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir. Boulevard 102.1. Que tu prennes tes vacances ici ou ailleurs, peu importe quand tu pars et où tu vas, traîne Boulevard 102.1 dans tes valises. L'application Boulevard 102.1.
Vous aimeriez vivre l'expérience du Festival d'été Québec cette semaine? Restez à l'écoute de Gravel dans le retour, parce que vous pourriez gagner une paire de billets avant Saint-Argent
pour assister au spectacle de Muse.
Les plus grands artistes locaux et internationaux en plein cœur de Québec, c'est au FEC que ça se passe.
Du 9 au 19 juillet,
l'été 2026 s'annonce mémorable. Boulevard 102.1 et le Festival d'été de Québec,
heureux de vous faire triper sur les plaines.
Célébrez la fête du Canada avec encore plus de points. C'est le super événement d'échange de points chez Pharmaprix ce vendredi jusqu'à mercredi. Valable en magasin et en ligne.
Le 1er juillet, venez célébrer la fête du Canada sur les plaines d'Abraham. Dès midi, plus de 50 activités et K-pop Demon Hunters. À 20h, spectacle d'Annie Villeneuve au kiosque Edwin Bélanger. Le 1er juillet, c'est gratuit, festif et pour toute la famille. Une participation du gouvernement du Canada et production Logico.
Vous avez transporté du matériel dans la poussière et la boue pendant de longues journées sur les chantiers. Mais aujourd'hui, vous tirez une roulotte de deux chambres vers votre petit coin tranquille pour aller décrocher. Avec jusqu'à 11 111 livres de capacité de remorquage, le Toyota Tundra est prêt pour tous vos chargements. C'est l'heure de conduire le vôtre. C'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme le Tundra 2026. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Pour vous gâter avec une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Avec nos 5 choix de sauce, nos frites fraîches et notre fromage en grains 100 % lait provenant des fermes d'ici, c'est la meilleure poutine à Québec. Fromagerie Victoria, familiale depuis 75 ans.
Village Vacances Valcartier vous fait une offre à faire crier de joie. Achetez une passe de saison au Village Vacances Valcartier à seulement 79,99 et obtenez un accès illimité pour la ronde et le parc aquatique Calypso. Trois parcs, trois fois plus de plaisir. Abonnez-vous au bonheur avec Village Vacances Valcartier. Offre valide jusqu'au 2 juillet.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Les 27 et 28 juin prochains, le 28e Gala des belles autodières aura lieu à la Polyvalente de l'Ancienne Lorette. Assistez à une exposition de voitures anciennes et classiques et profitez de plusieurs animations sur place. Soyez là les 27 et 28 juin prochains au Gala des belles autodières.
À BDC, on ouvre les portes de la défense aux petites et grandes entreprises. Parce qu'une botte fabriquée ici peut donner le rythme à toute une mission. Avec notre acier, on renforce notre présence en mer. Et avec l'intelligence artificielle, nos données passent à l'action. Parce que la meilleure défense commence avec nos produits canadiens. Pour du financement et des conseils, bdc.ca/défense.
C'est parti pour la grande vente porte ouverte chez Escale VR Beaumont. Du 25 au 28 juin seulement, profitez de rabais allant jusqu'à 20 000 sur une vaste sélection de VR neufs et usagés. Roulotte, tente roulotte, fifth wheel, boîte campeur, roulotte pliante et motorisée. Sur place, toute la famille s'amuse avec les jeux gonflables. En plus, courez la chance de gagner un scooter électrique d'une valeur de 1 500. Financement disponible avec des taux à partir de 5,99% ou ne payez rien avant septembre 2026. Escale VR Beaumont, sortie 337 de l'autoroute 20.
Ici Éric Duhaime. J'ai travaillé en politique puis ici à radio parce que je crois que les gens ordinaires méritent quelqu'un prêt à dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Même quand ça dérange, j'ai jamais hésité à prendre la parole pour les gens que personne n'écoute, pour les familles qui comptent leurs sous à l'épicerie, pour les entrepreneurs qui portent le poids de l'État sur leurs épaules, pour les patients qui attendent trop longtemps leur traitement contre le cancer, pour les jeunes qui ont abandonné leur rêve de s'acheter une maison. Ces gens-là méritent un politicien qui va pas les abandonner. Ils méritent un changement. C'est pour vous autres que je me bats.
Votre pelouse mérite son moment de gloire cet été. Avec Winman Entretien de pelouse, les nouveaux clients profitent de 50 % de rabais sur le premier service de leur programme.
Résultat, un gazon d'un vert éclatant et plus dense.
Cet été, offrez-vous la pelouse que vous méritez.
Si les locataires aiment tant recommander Promutuel Assurance, c'est entre autres pour ses bons conseils.
Et aussi parce que ça vaut le coup.
Oh, vous vous êtes assuré pour pas cher.
Mais hein, puis ça protège mes affaires qui, elles, valent cher.
Surtout que c'est pas l'assurance de votre proprio qui va les protéger.
C'est bien pour ça que je l'ai prise.
Votre assurance locataire?
Oui!
Chez Promutuel?
Oui, monsieur.
Excellent! Alors, pour une assurance locataire à partir de seulement 15 $95 par mois, choisissez vous aussi l'assureur qu'on aime recommander.
Mais ça...
Des conditions s'appliquent. Promutuel Assurance et la 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 la!
De jeudi à dimanche, ne manque pas le Festibière de Lévis au Quai Paquet.
Madeleine, Valère, un hommage aux Cowboys fringants et encore plus de diversité
dans ton verre avec microbrasserie, vignoble, distillerie et plus encore. Billets au infofestibière.com. Le Festibière Bière de Lévis, une présentation Promutuel Assurance.
À la recherche d'un VUS de luxe offrant espace, confort et élégance, c'est le moment de découvrir le Lexus RX 350 Premium 2026 chez Boulevard Lexus. Profitez d'une offre exceptionnelle en location 24 mois à seulement 1,9% à partir de 678 $ par mois avec acompte. Spacieux, raffiné et conçu pour rehausser chaque trajet, le RX est prêt à dépasser vos attentes. Visitez Boulevard Lexus dès maintenant pour en faire l'essai avant qu'il ne soit trop tard. Boulevard Lexus, le luxe prend la route avec vous.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock.
Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Antonine Iacarini est avec nous ce soir dans le podcast de Marceau Soir. Elle est analyste en politique, experte en affaires publiques et coach en prise de parole. Antonine, j'ai le goût de te parler des médias parce que tu fais beaucoup de médias. Comment trouves-tu l'évolution des médias? Comment les médias s'adaptent aux nouvelles réalités?
Moi, quand j'ai commencé à faire des médias, c'était en 2019.
Ouais.
Ça allait déjà pas super bien comme industrie. C'est une industrie qui a des défis, on va se dire les vraies choses.
Mais... Vos cachets sont beaucoup trop élevés.
Ouais. Veux-tu me partir là-dessus? Ils ont pas bougé. En tout cas, moi, depuis que je fais du média, l'inflation a frappé très fort, mais pas les cachets. Hein.
Ah non?
Ils restent toujours les mêmes. C'est vraiment. Ouais.
Les gens de télé s'en mettent toujours plein les poches.
Mais je vise pas Boulevard en particulier. Là. Je dis, c'est un phénomène généralisé. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, notre modèle au chroniqueur politique, c'était Jean Lapierre. Okay? On regardait Jean Lapierre, puis on voulait tout être des Jean Lapierre, tu comprends? Puis Jean Lapierre, ben, il réussissait à en vivre, il faisait d'autres choses aussi, des conférences, etc. Mais il faisait, tu sais, le matin à la radio, après ça, il faisait des régionaux, après ça, l'après-midi, il était à la télé, puis il réussissait comme ça à se monter quelque chose pour vivre. Moi, je vois de plus en plus de chroniqueurs que ça peut pas être leur job à temps plein. Tu sais, il y a les chroniqueurs qui sont vraiment issus du monde journalistique, puis ça a pas l'air facile non plus, là, tu sais, je dis pas du tout que c'est facile, mais il y a les chroniqueurs comme moi qui sont plus des anciens, qui arrivent de différents horizons, anciens de politique, anciens des milieux économiques, puis qui viennent chroniquer, tu sais... Moi, ce qui me frappe tout le temps, c'est que mes amis pensent que, genre, c'est super payant, là, puis que, genre, c'est vraiment glamour. Ben non, tu sais, moi, je suis obligée de continuer à travailler dans autre chose en même temps. Ben, je suis obligée. Je pourrais aussi manger juste des beans puis des macaronis au beurre, puis je pourrais probablement m'en sortir.
Ouais.
Mais je continue à travailler en dehors des médias aussi. pour comme un peu subventionner ma passion de faire de la politique dans les médias. Puis vraiment, je le constate, là, le clash générationnel. T'sais, ma mère, moi, elle écoutait le téléjournal à 22 ans, pendant une heure.
Ouais.
Donc, il y avait le judiciaire, le politique, la météo, le culturel, il y avait tout là-dedans. Puis après ça, il y avait comme une grande entrevue là, à Radio-Canada après le bulletin de nouvelles, c'était Le Point, ça s'appelait. Maintenant, les gens ne consomment plus comme ça. Puis c'est comme si, j'ai l'impression que les médias essaient de, tu sais, on essaie de faire des podcasts, puis on essaie de rentrer dans, de faire des petits clips vidéo, puis là, les caméras sont rentrées dans les studios de radio pour faire du TikTok, du Instagram. Mais c'est comme si on essayait de rentrer un carré dans un rond, là, puis qu'on n'avait pas encore tout à fait compris comment les gens maintenant consomment les médias, puis le divertissement, puis l'information aussi. C'est l'algorithme, maintenant, dans les médias numériques, nous pousse déjà juste ce qu'on aime. Donc, on ferme beaucoup, beaucoup nos perspectives, puis on tombe dans des chambres d'écho. J'ai l'impression qu'on est encore dans deux bulles complètement différentes. Puis, un bon exemple de ça, à mon avis, c'est l'élection américaine, l'élection présidentielle, où si tu écoutais les médias traditionnels, tu avais l'impression que Kamala Harris, là, elle avait le vent dans les voiles, Taylor Swift l'appuyait, c'était le party là-dedans.
C'est le grand orange qui est passé.
Ben oui. Pourquoi? Parce que c'est deux bulles. Il y a une bulle en dehors des médias qui existe maintenant.
Ouais.
Puis, il va falloir qu'on comprenne ce qui se passe dans les bulles. Là.
C'est aux médias traditionnels d'oser. C'est aux médias traditionnels de revenir un peu à ce que la radio était avant, la télé était avant, avec de l'audace. Aujourd'hui, on a toujours peur de savoir c'est quoi les plaintes qui vont rentrer si on reçoit tel ou tel individu. Moi, je le sais que tu t'embarqueras peut-être pas dans mon train, là, si je vais te dire ça, mais j'aime bien savoir pourquoi les gens sont dans les extrêmes.
OK, oui, moi aussi, vraiment.
Il y en a qui vont dire, non, faut pas les entendre, ces gens-là, mais pourquoi t'es un putain de misogyne? Explique-moi
qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie. D'où ça vient pour comprendre comment faut le combattre. Moi, je suis à la même place que toi, tu dis, on sera pas d'accord.
Ouais.
Je parlais de ça un peu plus tôt cette semaine avec Jeff Fortin.
Ouais.
Puis on se disait justement la même chose, c'est moi, quand il y a un phénomène pas beau, là, c'est moche, là, c'est laid. Moi, mon réflexe, c'est pas de le mettre dans une boîte en carton dans le fond du sous-sol. Moi, j'allume toutes les lumières, là, puis je dis « OK, on va le régler. Pourquoi t'es de même? Qu'est-ce qui t'a amené là? »
Exact.
Puis vous autres, les médias, là, t'sais, les animateurs de radio et tout ça, ben, quand vous invitez quelqu'un comme ça, je pense au masculiniste qui était là, tout le monde en parle.
Ouais.
Là, ça avait fait beaucoup réagir. Jamais tout le monde en parle aurait dû le recevoir.
Oui.
Hey, moi, je suis en désaccord avec
ça. Tu veux savoir pourquoi cet individu-là pense ça? Qu'est-ce qu'il a à dire? Puis oui, tu peux le challenger. Puis oui, tu peux aller dans des angles morts puis avoir nuancé et tout ça. Mais les médias sont tellement rendus frileux qu'ils sont en train de se faire damer le pion par des jeunes de 20 ans qui font des podcasts justement parce qu'ils ne sont pas réglementés par le CRTC.
Puis je reviens à l'empathie.
Battez-vous, vous êtes en train de mourir.
Ben, t'as
raison. Pas écœuré de mourir, bande de caves. Battez-vous.
Oui, mais en même temps, puis là, c'est mon petit côté nuancé, mais il y a une polarisation en ce moment dans notre société. Puis le réflexe face à la différence, c'est la haine. Moi, j'essaie de combattre ça chez moi. Là. Je pense pas que je vais changer le monde à moi tout seul, mais moi, je te parlais d'empathie tantôt. Donc, moi, mon réflexe, quand je suis face à quelqu'un qui s'est radicalisé, par exemple, on a vu les attentats, l'attentat cette semaine à Montréal.
Ouais.
Ben, oui, j'ai le goût de l'haïr, le gars, mais ça me donne quoi? Dans le fond, j'aimerais beaucoup mieux comprendre le processus qui l'a mené là.
Comment il s'est endoctriné?
Exact, parce que c'est où que tu vas agir?
On est à la même place.
Bon, donc, mais en même temps, c'est que si toi, parce que faut être honnête. Peut-être que tu le fais pour les bonnes raisons d'inviter le gars qui s'est radicalisé ou la fille qui brasse la cage.
Ouais.
Mais peut-être aussi que tu veux des clics puis tu veux de l'écoute. Donc, où est-ce qu'on met la ligne pour pas que ce soit juste du clickbait?
Mais le nerf de la guerre
qu'on
est
là, polarise.
Les écoutes, les clics, le nerf de la guerre est là. Fait que oui, quand tu fais venir le gros douchebag, à tout le monde en parle, c'est l'émission qui a le plus fait parler. Là,
tout le monde en parlait vraiment.
Exact. Puis oui, ça a fait réagir, puis ils ont eu des plaintes, puis là, plus jamais on va recevoir. Mais faites part d'audace, puis vous creverez pas. Faites part d'audace et vous creverez pas.
On a peur d'avoir peur.
On est dirigé, malheureusement, des fois par des gens qui ne connaissent rien à la télé. On est dirigé, malheureusement, par des gens qui ne connaissent rien au journalisme écrit. On est dirigé par des gens qui, malheureusement, parfois ne connaissent rien à la radio, mais c'est leur job. C'est des directeurs généraux, c'est des propriétaires. Les autres, ils ont 4-5 business, puis ils se disent « Oh boy, il y a une bonne business de radio. Ça m'intéresse. Je peux faire mon placement publicitaire, ça va me coûter moins cher, patati patata. » Mais en bout de ligne, ils sont frileux, puis ils prennent plus de risques. Puis les médias sociaux, il y a des jeunes qui poussent, puis ils savent que les risques, c'est hyper payant. Fait qu'ils vont faire passer le fameux douchebag sur leur chaîne YouTube. Ça va leur rapporter, je sais pas, moins 4 000 $, j'exagère peut-être. Puis le 4 000 $, c'est le 4 000 $ qui va aller à lui, mais c'est une recette qui ira pas aux médias traditionnels. 100%. Fait qu'il faut se battre.
Mais c'est ça, il faut se battre, mais en même temps, moi, je pense que vous devez garder une responsabilité de que ça a une vraie utilité sociale, puis que exact. Ça polarise pas pour polariser. Ouais.
Puis, tu sais, faire affaire avec des spécialistes le plus souvent possible aussi, plutôt que des gens qui parlent fort.
Qui flashent, mais tu sais, des experts, des fois, c'est le fun aussi.
Oui, oui, exact. Puis des fois, ça nous réconforte avec les idées qu'on a, ou des fois, ça nous déstabilise complètement, parce que tu dis, OK, c'est de même que ça se passe, je pensais vraiment pas. Tu sais quoi, c'est possible que je me trompe, Antonin Iacarini, des fois.
Es-tu sérieux?
Ben!
Non, mais pour vrai, en terminant,
ça a pas l'air de ça,
je vais vraiment rendre à César ce qui revient à César. Je trouve que quand tu te rends compte que tu n'as pas raison ou quand tu écoutes d'autres perspectives, tu as l'ouverture de changer d'idée.
Oui.
Tu sais, parce que les gens sont orgueilleux souvent. Sont comme, moi, j'ai déjà dit ça, fait que jamais je vais me dédire.
Non, mais ces gens-là se ramassent à leurs aides psychiatriques.
C'est ça.